Les Buissonniers reviennent après une escapade bien dans l'esprit de la maison de l'écriture de Bédarieux, qui cultive les chemins de traverse. L'escapade est finie et les voici de retour avec une émission placée sous le signe de l'urgence dans un monde indifférent, preuve qu'on peut être à la fois en retard au boulot et en avance sur son temps. Pour autant, les préoccupations ne se sont pas déplacées depuis le mois de septembre où les Buissonnières retransmettaient notre rendez-vous au terrain des possibles de Bédarieux. Au terrain des possibles, les participantes au stage Parler aux Pétunias avaient lu quelques-uns de leurs textes et j'en avais profité pour vous signaler l'abondante littérature relative à ce qu'on nommait jusqu'à il y a peu l'environnement, comme si la planète n'était qu'un paysage autour du nombril de l'homme, blanc, mâle et hétéro de préférence. Après quelques catastrophes, sécheresses tragiques, inondations meurtrières, tornades d'épouvante, sans parler bien sûr des pandémies, la prise de conscience s'installe doucement. Les scientifiques sont vent debout, les politiques et la plupart des médias sont couchés devant les milliardaires. Si on veut comprendre quoi que ce soit au monde qui vient, il urge de balancer sa télé à la déchette et de foncer chez le libraire.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est tous les mois, dans les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, présentée par Virginie Lounoni. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que notre mal vient de très loin. Et on connaît les ravages engendré par le fait de mal nommer les choses. Tout commence avec le mot « nature » qui, dans les premiers textes latins, désigne la force active qui a établi et maintient l'ordre de l'univers. C'est la définition de « natura ». À la Renaissance, le mot acquiert le sens théologique d'état naturel de l'homme par opposition à l'état de grâce. L'état naturel, c'est celui qui ne connaît pas Dieu et donc qui ne peut pas obtenir la grâce. Et c'est à partir de cette opposition état naturel, état de grâce que la machine du sens s'emballe. En 1690, on oppose les productions de la nature aux productions de la culture et de la civilisation. Et en 1696, 6 ans plus tard, notre maladie est déclarée. Nature désigne le monde physique, excluant l'homme et ses œuvres. La nature apparaît désormais en tant que paysage, c'est-à-dire spectacle. Au siècle suivant, l'état de nature s'oppose chez les philosophes à l'état de société. La place est ontologiquement balayée pour que les industriels s'y installent en maître. La nature est cette chose extérieure à nous qu'on peut exploiter autant qu'on veut. D'ailleurs, les sauvages, entendez les peuples non blancs, appartiennent peu ou prou à cette nature, on peut les réduire en esclavage et les coloniser sans remords. Les femmes aussi sont restées très proches de la nature. C'est à elles que s'applique d'abord l'expression « payer en nature ». Elles subissent d'ailleurs un sort proche de celui des esclaves. Elles travaillent sans contrepartie et sont traitées comme des biens dans la transaction commerciale nommée « mariage ». C'est à cet endroit précis de notre conception du monde que le grand philosophe et anthropologue du XXe siècle, dont je vous ai déjà parlé, Philippe Descola, enfonce le premier coin. Dans les années 70, à la fin de ses études de philosophie, il se tourne vers l'anthropologie, dont la figure de proue est alors Claude Lévi-Strauss. Il entame un travail avec un peuple d'Amazonie, un peuple indien d'Amazonie, les Achuars. Descola, à l'époque, étudiait l'adaptation des humains à leur environnement et la forêt amazonienne semblait un lieu favorable à cette étude. En plus, les Achuars vivent sans état, sans royaume, sans roi, sans chef, et leur organisation ne pouvait qu'intriguer un anthropologue blanc fraîchement émoulu de Normal Sup. Il part donc avec sa femme, Anne-Christine Taylor. Il commence par apprendre la langue des hachoirs, et les relations que ces humains entretiennent avec les plantes et les animaux se révèlent peu à peu. Très vite, il apparaît qu'un concept comme celui de nature en tant qu'environnement n'a strictement aucun sens pour les hachoirs. En effet, ces hommes et ces femmes ne se sont pas adaptés à une forêt amazonienne grouillante de créatures hostiles. Ils sont un élément, parmi d'autres, de la forêt qui comprend des plantes, des animaux et des esprits, plantes, animaux et esprits partageant une âme commune qui leur permet de communiquer, par les rêves en particulier. Vue d'Amazonie, notre conception de la nature comme un environnement extérieur à l'homme, qui peut en exploiter impunément les richesses, paraît complètement brutale, et les violentes conséquences du dérèglement climatique ressemblent à une réponse. Et c'est donc peut-être pour ça que la remise en cause du concept occidental de nature par Descola a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Elle a eu un retentissement profond et planétaire et a ouvert des chemins de pensée inouïs. Vous trouverez la liste des œuvres que je vais vous recommander sur le site de RPH, rphfm.org, dans la page consacrée au buissonnier. En quoi le fait d'appartenir à un même ensemble animaux, plantes et esprits change-t-il notre regard? L'effondrement des espèces au cours des 50 dernières années, la taille moyenne des populations d'animaux sauvages a diminué de 73% entre 70 et 2020. Cet effondrement cesse d'être le problème des autres, entendez ces quantités négligeables que sont les animaux, ça devient notre problème puisque notre espèce aussi est menacée. La première mutation engendrée par la transformation du concept de nature concerne les animaux. Il s'agit de ne plus les prendre pour des bêtes. Vinciane Després, philosophe et psychologue belge, s'engage avec brio dans cette voie. Cette enseignante de l'Université de Liège, à l'intelligence confondante, interroge notre rapport aux animaux à travers des travaux internationalement reconnus. Dans un recueil de récits d'anticipation publié par Actes Sud, elle imagine, parce qu'elle pense que les animaux, eux aussi, communiquent et élaborent des systèmes de communication comme nous, le langage ou la peinture. Elle imagine donc la poésie vibratoire des araignées, les aphorismes éphémères des poulpes, l'architecture sacrée des wombats. Les wombats sont des petits mammifères masurpiaux. Ils élèvent leur bébé dans une poche ventrale. Ça ressemble à un ourson, un wombat, et sa particularité qui a sidéré tous ceux qui s'y sont intéressés, c'est qu'il produit des crottes cubiques. Et il empile ces crottes cubiques pour construire des murs qui délimitent son territoire. Donc Vinciane Després a imaginé que tous ces messages, y compris l'empilement des crottes cubiques, avaient du sens Et évidemment, on ne peut que s'incliner. Pourquoi ça n'aurait pas de sens? Vinciane Després s'interroge aussi sur l'existence des oiseaux dans Habiter en oiseaux, publié toujours chez Actes Sud, et sur la relation que les animaux entretiennent avec leurs observateurs bipèdes, les scientifiques, dans un livre très drôle paru aux éditions La Découverte, Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ? Je me suis inspirée de tous ces auteurs pour faire rêver mes stagiaires cet été, parce que c'est bien entendu à partir de nos rêves qu'on écrit. Et donc, je vous propose d'écouter, de les écouter lire leurs textes. C'est au terrain des possibles de Bédarieux.
C'est les voix du direct. Alors, Laurence, avec les mains peut-être, mais loin du micro.
Entomologie libertaire. Petite araignée d'été, véloce, active, vert jaune translucide, gris doré selon la lumière. Caché au soleil de midi, le fil doré du matin tire la curiosité. L'œil doit s'expertiser pour discerner le chemin d'une succession de bulles diamantaires de dimensions infinitésimales. Cette petite a disparu en glissant le long de sa chaîne vers le feuillage, support et ombre à la fois. Il faut se faire menu, délicatesse même, pour apercevoir, bercée par le vent et éblouie de soleil, une nasse, appuyée au pilier feuille, pilier métal ou pilier bois, faite d'aller-retour, géométrie aérienne soulignée de poussière, feuilles ou brindilles. Se jouant de l'espace, la petite araignée d'été occupe en maîtresse opportuniste un territoire à première vue fantaisiste et aléatoire, mené par la fascination hypnotique de ce réseau brillant. On la voit. Elle est là, 8 pattes frêles, 4 de chaque côté de son corps allongé. Elle avance et de sa bouche, un langage de perles irisées lui trace un chemin. Appuyée sur la densité de l'air, elle dessine une mosaïque de vie et de mort. Son fil danse au vent et les petits insectes aveugles à ce filet souple et quasi invisible s'y prennent et s'offrent à son appétit du jour. D'aucuns questionneront sur son mode de reproduction, de déjection. Le mystère pour l'instant reste entier. Naissance, vie, mort, elle se cache. Revenir au petit matin. Le jour se lève et les gouttes de rosée ornent chacun des entrecroisements du filet. La carte solaire offerte au monde s'étale alors dans toute sa splendeur. Les fils de la langue déroulés silencieusement à l'abri de la chaleur révèlent une information céleste. Après la nurserie et le garde-manger, apparaît non pas une carte du tendre, mais un champ. Une partition faite d'un cercle de 6 tissages, brillant oriflamme suspendu au soleil levant, renouvelé chaque matin. Chacune des 6 sœurs de chaque cercle parle leur langue d'or en écho pour former une nouvelle étoile, celle du petit matin. Elles sont dernières guetteuses de la nuit, annonciatrices du début et de la fin des temps. Ces constellations, ces phares de plein jour, allumés de rayon en rayon, telles les tours génoises ou les feux cathares, feux d'alerte pacifique, s'éteignent, discrètes, rejoindre leur invisibilité du jour, elles filent le long de leur labyrinthe éphémère, se recharger d'humidité et de verdure. Les astronomes se sont penchés longuement sur les signaux émis, selon eux, vers d'autres terres. Les musiciens ont tenté de chanter rythme, point et croche. Les linguistes auraient découvert un nouveau langage. Mais l'araignée verte d'été offre sa beauté sans limite tant qu'il y a un peu d'eau, d'herbe et de soleil.
Bonjour, je m'appelle Mireille. Noire. de lumière, noire. Je tâtonne dans le noir, ne trouve que du vide. Mes mains alors se posent sur la terre, couverte de mousse, de feuilles éparses sur lesquelles je suis allongée. Je suis transpercée par son humidité. Noir, de lumière, noir. Je me relève, puis m'accroupis aussitôt, désorientée. Mes mains s'accrochent dans le sol. J'avance lentement, sans bruit. Noir, de lumière. Je m'approche d'elle. Elle s'affine, devient un simple trait, une ligne de feu. Mes yeux peu à peu s'acclimatent au noir profond de la forêt. Je frissonne. Le froid me paralyse un peu. Je dois bouger. J'avance encore. Je te vois. Tu m'avais déjà vu. Ton regard perçant a traversé le manteau noir de la nuit. Je te croyais plus proche, mais je te vois mieux maintenant. Mon regard s'aiguise. Je plisse un peu les yeux. Je m'approche. Noir. Noir. Où es-tu ? Noir. Tout est noir. Es-tu parti ? Je ne te vois plus, mais j'avance encore. Je veux aller vers toi, te toucher, t'enlacer. Où es-tu ? La terre devient plus sèche. Je quitte l'abri des arbres, je crois. Noir. De lumière. Te voilà. Tu m'attends ? Nos regards se croisent, se fixent, s'hypnotisent. Tu as atteint un court escarpement rocheux. Tu prends ton élan et d'un bond tu es déjà là-haut. Tu te retournes vers moi, tu me montres le chemin. Je te suis. Mes mains s'écorchent sur les pierres acérées. Le sang coule, tu le sens. Je m'approche doucement. Tu me laisses faire. Tu ne bouges pas. Tes deux lumières sont toujours là. Je sens ton souffle sur mon visage. Tu entends battre mon cœur. Ton gîte est là, il me semble. Je tâtonne alentour. La roche s'est creusée qui forme ton abri. Je m'allonge sur le sol couvert de brindilles et de mousse. Tu viens t'allonger près de moi. Mes mains s'enfouissent dans ta fourrure un peu rêche. Tu lèches le sang coulé de mes mains. Ta langue est douce, ton corps est chaud. Je m'y blottis, je me réchauffe. Nos yeux grands ouverts maintenant ne cessent de se regarder, s'interrogent, se questionnent, se découvrent et traversent ce voile impalpable qui nous sépare encore. Je fais mien ton monde. Les premières lueurs de l'aube rougeoient le ciel. Nos yeux se ferment. Noir. La chaleur du soleil m'a réveillée. Je me lève et tire mon échine. Tu n'es plus là. Près de moi, je trouve quelques os que tu as laissés. J'ai faim, je les dévore, faisant craquer le cartilage. Je fais le tour de la tanière et envoie des jets d'urine dessinant des rigoles qui serpentent sur la terre de l'abri. La truffe au ras du sol, je te sens. Tu as marqué de tes griffes quelques zébrures, signe de ton passage. Les traces laissées par nos urines mêlées, les griffures du sol, nos odeurs fauves vont repousser de ceux de la harde qui voudraient s'installer là. Je quitte l'abri, j'ai soif et j'ai encore faim. Je cherche tes traces sur la pente rocailleuse. Quelques touffes de poils inscrivent sur les pierres un poème. Tu les as bien mouillées de bave, elles ne s'envolent pas, laissent des traces que je suis. D'un bond, je saute au bas de l'escarpement rocheux, à ta poursuite. Je descends plus bas, car j'entends le clapotis de l'eau. Il faut que je boive. Sur la terre encore mouillée, tu as déposé quelques crottes dont l'odeur chaude et fauve emplit mes narines. J'en laisse aussi à côté. Ça veut dire, je vais te trouver. Je viens vers toi. L'eau coule plus proche. J'ai soif, je cours, l'eau est là. Je bois de longues lampées et laisse mon urine dessiner sur les pierres de la rive quelques circonvolutions odorantes. Je relève ma tête et ma truffe humide sent ton odeur apportée par la brise. Tu as traversé le torrent. Je me jette à l'eau, je bataille avec le courant. Il est un peu fort, mais mes pattes sont solides. J'atteins la berge, je m'ébroue longuement pour sécher mes poils. Arrive alors à moi, très forte, très puissante, une odeur de sang, de chair. La faim remonte jusque dans ma gorge. J'avance furtivement, sans bruit. Mes yeux détectent un remuement de branchage. Je m'approche, silencieuse, invisible. La bête a laissé là des traces, d'urine, de sueur, de salive. Je la vois, je bondis, ma mâchoire se referme sur son dos. Le sang envahit ma gueule, me saoule. Je resserre mes crocs, elle ne bouge plus. J'assouvis ma faim, faim de sang, faim de chair, faim d'eau qui craque, faim de louve. Je suis repu. La forêt est remplie d'odeurs, de signes, de traces qui me disent le chemin à suivre, les obstacles à franchir, les dangers à éviter. Et je vois tes empreintes que je vais suivre pour te retrouver.
La forêt, puisqu'il en est question dans la nouvelle de Mireille, fait partie de ces environnements dont le statut a brusquement changé. D'environnement et de réservoir à bois exploité sans ménagement par des machines monstrueuses qui ravagent sol et êtres vivants, la forêt, sous l'impulsion de Francis Allais en particulier, dont les travaux sont internationalement reconnus, la forêt est devenue un organisme à part entière dont l'homme est non pas le maître, mais l'obligé dépendant. D'autres auteurs se sont engagés à sa suite, comme Gaspard Dalens, journaliste et écrivain. Je vous conseille un petit livre paru au Seuil dans la collection Libelle, des forêts en bataille. Courez l'acheter. Pour le prix de 2 cafés, votre regard, votre vie vont changer. Je vous en donne un avant-goût. S'il fallait trouver une origine à notre monde, elle ne serait pas à chercher dans le lointain, dans le ciel ou les étoiles, à des années-lumière de nous. Non, elle serait ici-bas, à mi-chemin, dans le bruissement du grand chêne, le chuchotis des cimes, le frisli du tremble. L'origine de notre monde, ce sont les feuilles, fragiles, vulnérables, et pourtant capables de revenir et revivre après avoir traversé la mauvaise saison, observe le philosophe Emanuele Coccia. Qui d'autre, en effet, est capable de transformer l'énergie solaire en corps vivant? Qui d'autre sait appeler les nuages, faire tomber la pluie? Qui régénère les sols, purifie l'eau? Qui adoucit les températures devenues folles? Qui filtre les polluants de notre air vicié? Qui, enfin, fait vivre? Les forêts sont nos poumons cosmiques. Cette vérité toute simple, nous sommes de plus en plus nombreux à la saisir et à la comprendre dans tout ce qu'elle implique en termes d'éthique et de changement de regard. Nous tenons aux arbres comme ils nous tiennent. À leur côté, quelque chose pousse, nous pousse et nous fait pousser. Au seuil de la catastrophe écologique, cette prise de conscience revêt un caractère particulier, peut-être moins enchanteur et plus grave. Alors que le ciel se couvre des cendres des méga-feux et que la sécheresse gagne les clairières, de vieux traumatismes se ravivent. Nous réalisons que ce n'est pas la forêt qui a besoin de nous, mais nous, humains, qui sommes dépendants d'elle et arrimés à son devenir. La forêt ne rend pas seulement des services, elle ne rend pas uniquement des fonctions ou des bénéfices mesurables que l'on pourrait classer sur un tableau Excel, elle façonne d'abord et avant tout l'habitabilité de notre monde. C'est sous ses ramures protectrices que l'on puisera la force nécessaire pour défendre chèrement nos milieux de vie, alors que tout semble sur le point de s'écrouler. C'est en son creux, tissé à son écosystème et aux êtres qui la peuplent, que l'on trouvera un peu de réconfort. Dans les bois, je sens que rien ne peut m'arriver dans la vie, ni disgrâce, ni calamité, que la nature ne puisse réparer, disait déjà le philosophe Ralph Waldo Emerson. Quelque chose de profond est en train de se jouer. c'est encore inaudible et souterrain, mais ça creuse des galeries dans nos têtes, ça nous touche intimement. Le monde se transforme sous nos yeux et nous n'échappons pas à cette mutation. Elle s'opère au-dedans et au-dehors, à travers nos corps. Nous ne sommes pas les simples témoins de la dévastation en cours. Nous la ressentons dans notre chair. La terre retournée des coupes rases, le son terrible des arbres qui craquent sous l'assaut des machines, le déferlement des bulldozers qui arasent les collines, les incendies qui ravagent des régions entières, ces chevreuils brûlés qui courent se noyer dans l'océan, ces oiseaux qui tombent du ciel asphyxiés, tout cela nous est devenu insupportable, nous ronge et nous hante, comme si finalement nous avions mal à la terre. À l'automne dernier, des militants contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres se sont mis en grève de la faim pendant plus d'un mois pour protester contre l'abattage des arbres et des bosquets qui devaient laisser place à la coulée d'asphalte. Certains sont restés perchés dans les platanes pendant plusieurs semaines, vivant à leur crochet, suspendant des tentes à 20 mètres de hauteur sous leurs houppiers, à même les branches. Pour eux, refuser de s'alimenter était une manière de matérialiser nos dépendances, de mettre à nu la fragilité de notre subsistance. La forêt n'est pas un décor extérieur à nos vies, un environnement lointain ou abstrait. Sans arbres, nous mourons, résume l'arboriste Thomas Braille. Il y a plusieurs années, Valérie Bernada s'était aussi arrêtée de manger pour dénoncer la multiplication des coupes rases qui balafraient les environs de sa ferme. Elle voyait dans sa grève de la faim son dernier recours pour faire entendre sa colère et sa détresse dans ce petit bout de campagne perdu aux confins du massif du Morvan. Son ultime parcelle de pouvoir face aux industriels qui voulaient raser les bois et faire régner la logique du profit. À quelques mètres de chez elle, les grumiers défilaient et des centaines d'arbres tombaient nuit et jour dans un bruit assourdissant. À chaque fois qu'ils s'écroulaient, je ne respirais plus, raconte-t-elle. C'était une douleur terrible. J'étais tellement meurtrie que je n'arrivais plus à dormir. Je ne faisais rien de mes journées, je pleurais sans cesse. La violence qui s'exerçait sur les arbres était comme un viol, dit-elle. Ce pillage lui brisait le cœur. Les industriels ne s'attaquaient pas simplement à de la ressource ligneuse, à de la matière inerte, juste bonne à rentabiliser. En arrachant les chênes et les hêtres, on lui volait une partie de son espace vécu, ses souvenirs, son accès à la beauté. Une forêt volatilisée, ce n'est pas seulement du bois qui disparaît, ce sont des liens à jamais brisés, des usages qui sont perdus, une complicité qui s'évapore. Où se cachera désormais le troglodyte? Les engoulevents reviendront-ils en mai prochain? Quel refuge pour la biche? Entendrons-nous encore le chant flûté du loriot? Valérie a trouvé la force de les défendre, quitte à mettre à sa propre vie en danger. Elle a rameuté les riverains et la presse, installé son lit de camp à la mairie. Après un long bras de fer, un bazar comme on n'en avait jamais vu dans le coin, les tronçonneuses se sont tues. L'éleveuse de brebis a arraché sa victoire. Chaque matin, elle la savoure en regardant par la fenêtre. Les présences sont là, tout autour d'elle. Puisque nous avons la chance extrême de vivre dans une région magnifique, à condition évidemment que les politiques ne se mêlent pas d'aménager des autoroutes. Écoutons, admirons, respectons les créatures qui vivent avec nous. Ouvrons nos yeux et nos oreilles, tâchons d'exister en poète plutôt qu'en prédateur, boycottez les supermarchés et installez vos pénates dans les librairies, le monde se portera mieux. Au mois prochain.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
Vous avez écouté Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez le deuxième mardi et le deuxième dimanche du mois sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Taking.